Ouais, je cherche. En fait, hier, en parlant rapidement avant de se coucher, il y a ces expériences de mort imminente ou, qui peuvent provoquer en fait une sorte de détachement de cette réalité dangereuse et même provoquer un sort de sentiment de béatitude ou au moins qu'en fait on lâche tout parce qu'on n'a plus peur, on peut complètement s'engager que ce soit dans la mort ou dans la survie. Ce que tu évoques et puis ah, ça fait le souffle mais en fait je suis retombée du coup sur cet extrait de Jack London et dans ce, je sais pas si tu as lu cette How to Build a Fire qui était publié en 1907 et puis c'est vraiment le périple d'un homme qui part dans le nord extrême tout seul dans la neige et puis qui trouve sa mort parce qu'il n'arrive pas à allumer un feu. Et c'est un court récit, enfin c'est une nouvelle de 10 pages. Et puis à un moment donné, c'est vraiment, il décrit l'instant juste avant la mort. J'ai trouvé là la citation en anglais. Et il dit donc, en essayant, après maintes essais d'allumer un feu, de ne pas succéder, puis de commencer à réaliser qu'en fait la mort serait inévitable. Il dit, le protagoniste, donc écrit à la première personne, il dit When he had recovered his breath and control, he sat up and entertained in his mind the conception of meeting death with dignity. However, the conception did not come to him in such terms. His idea of it was that he had been making a fool of himself, running around like a chicken with its head cut off, such as the smile that occurred to him. Well, he was bound to freeze anyway, and he might as well take it decently. With this newfound peace of mind came the first glimmerings and drowsiness. A good idea, he thought, to sleep off to death. It was like taking an anesthetic. Freezing was not so bad as people thought. There were lots worse ways to die. Et donc il enregistre vraiment ce moment, ouais, de réflexivité même, pas d'abandon de peur, mais aussi, bon, là en particulier, c'est que ça serait une résistance qu'il a pu choisir, qu'il a pu avoir ce destin de la mort, anesthésie quasiment qui passe par une absence de douleur. Une absence de peur pour embrasser pleinement la mort et puis c'est pas un exemple isolé justement de récit fictionnel ou de récit à la première personne qui met en narration en fait ce moment juste avant la mort et puis qui sont considérés par les protagonistes qu'on peut appeler des survivants, des revenants si on y croit qu'ils étaient vraiment réellement morts, ou bien simplement des survivants, des traumatisés, comme étant en fait, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, comme une expérience qui les libère en fait de leurs angoisses dans le moment même, et qui peut, s'ils le survivent, même avoir un effet de béatitude. Et donc j'ai juste pris cet exemple parce qu'il décrit ce moment de libération, mais il ne survit pas. Bon, c'est un récit fictionnel, mais ça a été beaucoup décrit justement dans la littérature psychopathologique ou médicale, psychologique, la fiction, que ces moments en fait de presque noyade, justement des chutes des alpinistes, en fait peut provoquer un. Ouais. Outre le symptôme de dépersonnalisation qu'on avait évoqué tout à l'heure, donc un sentiment de se sentir loin de l'événement, éloigné, pas concerné, du coup de ne pas avoir des peurs, pas avoir des angoisses, puis en même temps provoquer un sentiment de hypervigilance et de mémoire passée qui se réactive. Et qui font qu'on peut baigner dans une sorte de sentiment océanique Mais maintenant, pour faire référence à Freud, mais qu'il n'avait pas compris ça dans ce sens-là. Mais disons une sorte de... On est en suspension entre le passé, le présent et le futur. Que de certains sentiments que certains psychologues New Age ou un peu transpersonnalistes avaient décrit comme une expérience périnatale, une sorte d'expérience de renaissance en fait, parce qu'on est dans une sorte de situation du fœtus, on baigne sans coordonnées de X, Y, sans. Enfin, on est à l'intérieur mais en même temps à l'extérieur. Donc, et que des moments de confrontation avec la mort peuvent provoquer ce type de moments de suspension qui, si on les survit, on peut être enrichi en quelque sorte. Si on ne les survit pas, peut-être qu'on est enrichi aussi dans l'instant même, on ne sait pas.
Et je pense à quelque chose auquel j'avais jamais songé, mais les cas, les études de cas que tu as pu analyser, étudier de mort imminente, se déroulaient systématiquement dans des environnements naturels, type montagne, ou volcan ou océan, où certaines expériences de mort imminente ont pu être analysées dans tout autre contexte, un contexte, je sais pas, urbain. En fait, est-ce que le contexte dans lequel a lieu cette expérience de mort imminente peut avoir un impact par ailleurs sur la suite, ou est-ce que l'expérience reste la même, les symptômes restent les mêmes?
C'est une question importante et intéressante qui est épistémologiquement un peu difficile aussi, parce que aussi, enfin, il faut préciser, enfin, le problème c'est qu'on se base toujours, enfin moi dans ma recherche je me suis basé sur des récits cités par des savants, des récits publiés par la presse ou alors des récits de fiction utilisés comme une sorte de métapreuve ou un outil de comparaison avec un matériel empirique. Mais c'est vrai qu'il y a des différences. Par exemple, j'avais longuement interrogé deux Américains, un psychologue et un psychiatre, qui avaient énormément publié dans les années 70 sur ce qu'ils appellent life-threatening danger situation ou near death experience in life-threatening situations, ou ce qu'ils avaient appelé à la fin, enfin au début des années 70, ils appelaient ça comme une experience of dying, ou plus tard comme un syndrome de dépersonnalisation. Et en fait, en discutant avec eux, je leur posais aussi la question pourquoi il y a une absence, parce qu'eux ils étaient vraiment des spécialistes des enquêtes menées sur les survivants, disons, à l'extérieur de la clinique, donc des presque noyades, des chutes dans les Alpes, ou bien des accidents de voiture, des accidents de train, qui en avait beaucoup moins dans les années 70, ou bien des accidents d'avion, tout type d'accidents, qui après, donc des sujets qui ont passé par la clinique, une évaluation clinique, qui leur permettait de comparer leurs perceptions, sensations, et en fait, ils avaient, et j'aurais posé la question, mais pourquoi il n'y a jamais cette, ou c'est étrange à quel point l'image du tunnel qu'évoquent plus beaucoup les Américains à partir des années 80, dans ces fameuses récits, ces fameux récits de Near Death Experience. En fait, c'est un des éléments clés, on dit, depuis les années 80 dans la littérature, le New Age sur la Near Death Experience. Mais cette expérience de tunnel est absente dans les moments de chute. On va plutôt décrire, donc pas dans les récits après, à la fin des années, dans les années 80. Je sais pas, là je dis, il y a Raymond Moody avec son fameux livre Life After Life par exemple, qui a décrit la Near Death Experience en 15 étapes, donc caractérisée par le tunnel, la vue panoramique des images, l'éblouissement, enfin la lumière, extrême pénétration dans une autre réalité, la visite des défunts, etc. Mais la vue panoramique, elle joue un moindre rôle. Puis, en fait, avec ces psychologues, on avait dit oui, c'est que, en fait, il y avait probablement une distinction à faire, mais difficile à mesurer. Et puis, entre une mort imminente qui se passe de façon naturelle à l'extérieur et accidentelle surtout, sans préparation, mais aussi de façon consciente, on l'expérimente de façon consciente. Et donc ça produit une expérience différente que si on a un accident suite à une opération, un problème lié à l'anesthésie, accouchement, donc où on se retrouve dans un état d'inconscience, ou même d'état de mort clinique prononcée. Et que là, il y a, dans ce deuxième cas, il y a beaucoup plus de récits de, justement, de décorporation du corps, de lumière et d'un tunnel qu'on doit traverser avant d'arriver à cette lumière. Ce qui, on pourrait dire de façon un peu matérialiste et un peu spéculatif et peut-être pas très valide, mais que si on a une fraction de seconde pendant une chute, c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes qui s'opèrent. Et on peut constater, et c'est pour ça que les récits en fait des alpinistes sont importants dans cette connaissance sur les états en proximité de la mort, c'est parce qu'ils décrivent en détail surtout deux choses, c'est-à-dire que d'un côté, dans cette fraction de seconde, il y a une chute où on se trouve à chuter 20 mètres avant de perdre l'inconscience, 30 mètres, et donc on a la faculté d'avoir un sentiment de justement de dépersonnalisation, de déréalisation, donc aussi qui implique on sent plus son corps, on sent plus les douleurs et les peurs, mais qu'à un autre côté, il y a le mental, il est en hyper alerte. Et on arrive, et on a constaté dans plusieurs cas de l'issue de la littérature alpiniste, 19e siècle, mais aussi durant le 20e siècle, qu'on a une faculté aussi à agir. Donc c'est être dans la réalité. Il y a eu dans la littérature psychologique durant le 20e siècle différents types de théories qui essaient d'expliquer cette opposition entre l'élément réalistique et le réellement autistique. Je dis ça maintenant en utilisant des noms allemands, ou bien le soi observant et le soi participant, pour un peu parler de ce clivage de personnalité. Mais de nouveau, le fait qu'on parle de clivage de personnalité, c'est aussi lié à un certain contexte. En fait, donc, on ne peut pas dire... C'est pour ça que c'est difficile de dire avec précision ce que vivent les gens s'ils sont en chute par rapport à ceux qui sont malades ou en fin de vie par la maladie. Parce que, d'une part, leur expérience change, d'autre part, c'est leur récit qui est intégré dans un certain type d'approche savante, disons qu'il va plutôt expliquer l'expérience par rapport à une connaissance qui peut être psychiatrique, psychologique, transpersonnelle. Les transpersonnalistes vont autrement expliquer, justement ils vont parler de death and rebirth experience, ou ego side, on tue sa propre personnalité pour pouvoir renaître. Thank you. pour revenir à Davis et puis à ce rapport qu'il établit entre l'expérience vécue dans le champ de bataille et puis cette envie soutenue massivement par des porteurs, par des centaines de porteurs, par de l'argent, de la nourriture, des entrées. Ils n'auraient jamais pu réaliser cette expédition sans l'aide précieuse de ces gens. Qu'il y a quelque chose de curieux, en tout cas, parce que moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la psychologie et des courants psychologiques, et il y a des exemples intéressants, par exemple, parce que tu évoquais aussi cette expérience, enfin, d'être court, de façon répétée, confronté à la mort. Il y a eu des exemples parmi les psychologues, par exemple Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien, donc qui a vécu au XXe siècle, est mort dans les années 90, si je ne me trompe pas. Il a émigré aux États-Unis et il a écrit ce livre Man's Search for Meaning au début des années 60, puis après il a publié un livre à la fin des années 60 qui s'appelle Logothérapie, Selected Papers on Logothérapie. C'est une sorte de thérapie qu'il a inventée basée sur une approche existentialiste, humaniste, se détachant un peu du courant psychanalytique. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est que toute sa psychologie humaniste qu'il développe, donc c'est-à-dire une approche centrée sur l'humain, sur donc une approche de la maladie mentale, des troubles mentaux, comme étant quelque chose qui peut être résolu par l'individu lui-même. Donc c'est que l'individu doit se libérer pour donner sens à ses troubles, pour chercher ce sens et puis pour chercher une solution. Et donc c'est une approche centrée sur l'humain que lui, il a développé, comme il dit, mais ça participe aussi à une autofiction. Comme toujours, je veux dire, ça peut aussi participer à une autre solution, mais lui, il a été un survivant de l'Holocauste, et il avait expliqué quand il était dans le camp pendant. Je crois qu'il n'est pas resté si longtemps que ça, parce que quand on lit dans les détails, il avait la fonction de psychiatre, et donc il accueillait, disons, il s'occupait des nouveaux arrivés, comme ils appelaient, et il essayait d'éviter ce qu'il appelait the entrance shock. Et donc, il faisait une sorte d'encadrement psychologique de ces nouveaux arrivés. Et c'est par cette confrontation à la mort, de tous les jours, et puis à la destruction, qu'il a développé cette perspective libératrice centrée sur l'humain. Et donc, tout ça pour dire que d'un point de vue de l'histoire sur l'alpinisme, c'est intéressant de relever, en fait, outre justement l'expansionnisme, alpinisme, sportification, société savante, de relever un peu les moteurs ou les liens méta, un peu de motivation ou les motivations qui ont aussi participé à ou qui ont simplement poussé certains individus à faire ces entreprises-là et de monter vraiment. Et du coup, voilà. Je sais pas si je me suis éloignée maintenant de là.
T'as fait une superbe boucle.
Pour revenir à Davis. Non, parce que je critiquais hier un peu le livre.
Ouais.
Parce que je trouvais que c'est un livre qui devrait faire des parties plus grandes, enfin des parties qui devraient être reparties en plusieurs parties pour traiter uniquement, je sais pas, l'impact de l'expérience de la guerre sur ces alpinistes, une deuxième peut-être sur les rapports entre les Britanniques et les Indes, et d'avoir un peu, en fait, de comprendre quels sont un peu les thématiques et les sous-thématiques qui traversent en fait cette équipe. Parce qu'en fait, le fil narratif, c'est évidemment ses essais, et c'est finalement ces essais qui n'arrivent jamais à un succès quasiment, ou ce mythe de est-ce qu'il y a quand même la dernière qui a réussi à être achevé, puis que ça fait la structure narrative de base, mais qu'on arrive à rentrer dans le sujet avec des arguments plus présents, disons. Mm. Mais maintenant, j'avais envie de le réviser en disant que quand même, ça, c'est un aspect majeur, et je trouve que c'est...
En fait, ce que je trouve, moi, très puissant dans ce livre, que j'ai très envie de relire, plutôt que de le relire par bout, comme je le fais depuis quelques semaines à nouveau, c'est la manière dont il peut créer un tissage, un maillage entre la vie, l'existence d'un certain nombre de ces personnages et la grande histoire, on va dire, l'histoire de la cartographie, l'histoire de l'expansionnisme britannique, l'histoire de l'alpinisme, la Grande Guerre, etc. Parce qu'on se rend compte, en fait, qu'un certain nombre de personnages, et il y a vraiment une myriade de personnages dans ce livre, qu'il introduit progressivement, comme autant de personnages de caractère. Bon, un certain nombre d'entre eux, je me souviens, quand j'avais lu le livre, m'étaient absolument inconnus. Oui, et je me rends compte, en fait, que certains de ceux-là qu'on trouve dès le tournant du 19e, 20e siècle, sont ceux-là même qu'on va retrouver, en fait, 25 ans après. En fait, c'est assez fascinant de voir à quel point certains personnages clés, en tout cas ceux auxquels ils s'attachent, ont contribué vraiment à la force de leur poignet et avec beaucoup de volonté et de prosélytisme à faire que ces explorations adviennent, en fait.
Au sein d'un développement majeur, par exemple comme l'alpinisme, disons, à partir du milieu du 19e siècle, qui était systématisé avec la création du club alpin à partir des années 1850. Et en fait, on se rend compte aussi que les alpinistes, qui étaient pour la plupart du temps des savants, des médecins, des géologues, je connais pas exactement leur mais je veux dire les savants du 19e siècle avaient plusieurs domaines d'expertise,
bien sûr.
Mais disons que en fait c'est au sein de ce développement même de l'alpinisme qui a attiré soudainement aussi beaucoup de gens, donc il y avait énormément de touristes à la fin du 19e siècle, et puis que les statistiques, les premières statistiques sur les chutes alpines, en fait, c'était les membres du club alpin qui les avaient enregistrés, et pas, disons, dans le cas de la Suisse, les statistiques fédérales. Et donc, c'est que il y a aussi des connaissances qui peuvent émerger, qui sont spécifiques justement à cette expérience alpine. Et que parce qu'il y a des savants qui gravissent les montagnes, qui observent des chutes et qui sont préoccupés par les mesures de sécurité et qui commence à inscrire tous les accidents pour comprendre est-ce qu'on peut diminuer le taux d'accident. Par exemple, après ils ont développé plusieurs variables. Par exemple, un aspect c'est l'inexpérience, un autre c'est manque de provisions, un troisième c'est manque de connaissances sur la cartographie, un quatrième c'est cueillir de l'Edelweiss pour et donc du coup on commence à systématiquement plus ou moins à comprendre les motivations et les causes de mort qui sont liées dans cette histoire et c'est ça que je trouve justement intéressant, comment en fait avec l'histoire on arrive à écrire une autre histoire. Par exemple, c'est intéressant, l'alpinisme, on arrive à écrire une histoire de la statistique spécifiquement pour les montagnes. Et ça c'est un exemple aussi que les héros des expéditions, on peut relire la psychiatrie de la guerre ou l'histoire de la guerre. Et c'est ça que je trouve les expériences dans les montagnes de particulier, c'est qu'elles nous ramènent toujours à une autre histoire. Par exemple, il y a des savants aussi qui ont été, toujours en parlant du cas suisse, des savants alpinistes au tournant à la fin du 19e siècle, étaient aussi parmi les pionniers de la protection des animaux. Et donc, on pourrait aussi écrire l'histoire de l'alpinisme et puis on arrivait vraiment à une histoire sociologique, politique, des engagements civiques à ce moment-là.
La montagne pour ce qu'elle fait faire aux hommes.
Oui, c'est le fait de monter, c'est pas uniquement qu'on peut être en meilleure santé après ou pas, ou transformé, mais c'est qu'en s'intéressant à ces pluralité d'expériences et de données qui ont été produites aussi, des données épistolaires, des données statistiques, des données physiologiques, nous ramènent sur d'autres territoires.
Thank you. Thank you.
C'est la question, tu vois, de ce que la montagne fait faire. Alors je sais pas si c'est une manière très latourienne de considérer les choses, envisager plutôt les résultats, la résultante, les conséquences de quelque chose plutôt que de revenir à son origine.
Ouais.
Ou je sais pas, une approche pragmatiste des choses. C'est quelque chose, moi, auquel je m'intéresse, à laquelle je m'intéresse aussi ces temps-ci au travers de. D'une montagne spécifique dont on avait déjà parlé, hein, qui est la face nord de l'Eiger, dans l'Oberland bernois. Et je crois que quand je t'avais écouté en conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle il y a 3 semaines, il y a quelque chose qui a fait clic en moi. C'est un mot que tu as employé plusieurs fois, qui, je crois, est la mise en récit de quelque chose, ou la mise en narration de quelque chose. Et c'est ce à quoi je suis en train de réfléchir autour de cette la mise en récit d'une montagne et ce qu'une montagne peut faire aux hommes. C'est-à-dire comment une montagne se met en récit par les récits des hommes qu'ils en font, mais à un moment, la somme de ces récits autonomise, individualise, anthropomorphise la montagne qui devient un mythe en tant que tel et qui à son tour entraîne des actions et fait faire aux gens. Parce que la montagne est devenue ce mythe, parce que l'Eiger est devenu l'ogre, parce que l'Eiger est devenue la dernière difficulté des Alpes occidentales, elle fait faire des choses qu'elle n'aurait pas fait faire aux hommes qui sont attirés à elle comme des mouches.
Oui, il y a cette montagne péruvienne, Yerupaya, qui s'appelle aussi communément The Butcher. The Butcher comme le,
Le boucher. Le boucher.
Ouais. Parce que voilà, ça donne lieu à des potentielles boucheries. Non, donc c'est cette connotation.
Ouais, ouais.
Et c'était les Américains qui étaient les premiers à réussir dans les années 50. The Butcher. Et il y avait une grande publication, un journaliste qui s'appelle Sachs, qui a publié justement The Ascent of the Butcher. Et c'est vrai qu'il y aura toute une histoire aussi à écrire sur. La linguistique ou l'anthropomorphisme de ces sommets à atteindre. Au Mexique, il y a beaucoup d'exemples aussi de volcans qui portent des noms mythologiques.
Ouais.
Iztaccíhuatl, Popocatépetl, par exemple, qui sont ces deux montagnes pas très loin de la capitale, je pense à 70 km de Mexico City, et qui est leur nom. C'est du narratel et puis ça s'inspire de ce mythe créationniste de ces deux mythes créateurs de ces deux volcans qui en fait auraient été justement la conséquence d'un mariage raté entre Ista qui est une princesse et puis Popocatépetl qui est un guerrier à qui on avait promis Ista au mariage. Donc le père, il avait promis à Popocatépetl de pouvoir la marier quand il revient de la guerre. Sauf qu'entre-temps, le père, il avait dit à Iztaccíhuatl que son popo est mort sur le champ. Et du coup, elle s'est suicidée. Et Popo, il rentre pour se marier. Et il la retrouve morte, donc il se suicide aussi. Un peu de Roméo Juliet mexicain. Mais que du coup, en fait, cette Iztaccíhuatl s'appelle femme blanche, donc dans la langue autochtone, et puis qui est donc toujours couverte d'un glacier, en fait, elle est toujours blanche, comme une femme, la femme blanche, pas dormante, la belle dormante, et le popo est en fumée constante, et qui exprime sa rage, toujours présente face à son désespoir, enfin, qui exprime son désespoir, et donc il y a encore ce... Ouais, cet anthropomorphisme un peu dans l'extrême qui est aussi expliqué par l'activité même du volcan, la présence. Pas uniquement la légende, mais aussi, même, voilà, on le sent, il y a des éruptions de cendres, à un moment donné, ça couvre toute la ville. Et ça évoque. Ouais, c'est assez mythologique. Pas tout pour, voilà, pour dire qu'il y aura encore peut-être des histoires à écrire sur. Oh.